Chapitre 3. Loi du jour de fête. 1. Edidine, qui ignorait que Roland pensait parfois à lui comme à un Camaï, le fou du cas, avait à la fois tout entendu et rien entendu, tout vu et rien vu. La seule chose à l'avoir durablement marquée depuis le début du concours de devinettes, c'était le feu qu'avaient craché les yeux de Pierre des Molosses. En levant la main pour protéger les siens de l'éclat de ses éclairs en chaîne, il songea au portail du rayon dans la clairière de l'ours et comment, en collant son oreille contre le battant, il avait entendu le lointain grondement d'une machinerie formidable. À voir s'allumer les yeux des Molosses, à écouter Blaine puiser dans cette masse d'électricité pour charger ses batteries avant d'effectuer son plongeon final à travers l'entre-deux mondes, Eddie avait songé « Tout ne s'est pas tu dans les grandes salles des morts et leurs chambres en ruine. Même à présent, certaines choses que les grands anciens ont abandonnées derrière eux fonctionnent encore. Et c'est vraiment ça, l'horreur. Tu ne crois pas ? Si ! L'horreur pure et simple. » Eddie était mentalement et physiquement revenu parmi ses amis un court moment après ça, mais s'était vite replongé dans ses pensées. « Eddie est en train de zoner », aurait dit Henry. « Faut le laisser faire. » L'image de Jake frottant le silex contre l'acier n'arrêtait pas de revenir encore et encore. Il laissait son esprit s'y attarder quelques secondes, comme une abeille butinant une fleur avant de s'envoler plus loin. Parce que ce souvenir n'était pas celui qu'il visait, ce n'était qu'un moyen d'accès à celui qu'il visait vraiment, qu'une autre porte, comme celle de la plage de la mer occidentale, ou encore celle qu'il avait tracée dans la boue de l'anneau de parole avant qu'il ne tire Jake. Seulement cette porte-là était dans sa tête. Ce qu'il voulait se trouvait derrière. Ce qu'il faisait, c'était un peu, crocheter la serrure. Zoner dans le parler d'Henry. Son frère avait passé le plus clair de son temps à le rabaisser, parce qu'Henry avait peur de lui, était jaloux de lui. Eddie avait fini par le comprendre, mais il se rappelait le jour où Henry l'avait abasourdi en lui disant quelque chose de gentil. Mieux que gentil, en fait. Défiant l'imagination. Ils étaient toute une bande assis à glander dans l'impasse derrière chez Dali. Certains mangeaient des Popsicles et des Ootsie Rockets, d'autres fumaient un paquet de Kent que Jimmy Polio, il l'avait rebaptisé comme un seul homme à cause de ce machin mal foutu, son pied beau, avait fauché dans le tiroir de la coiffeuse de sa mère. Henry, on pouvait s'en douter, était parmi les fumeurs. La bande dont faisait partie Henry et dont faisait aussi partie Eddie, en tant que son petit frère, avait une façon bien à elle de désigner les choses. C'était l'argot de leur minable quatête à eux. Dans la bande d'Henry, on ne tabassait jamais personne, on l'expédiait en réparation. On se tapait jamais non plus une fille, on faisait gueuler la pétasse. On n'était jamais défoncé, on se foutait sur orbite. Enfin, on se bastonnait jamais avec une autre bande, on se coltinait une chierie de merdier. La discussion ce jour-là roulait sur qui on voudrait dans son camp si jamais on se coltinait une chierie de merdier. Jimmy Polio, il parlait le premier parce qu'il avait fourni les cigarettes que les potes d'Henry appelaient ses putains de tiges à cancer, choisit Skipper Brannigan parce que, d'après lui, Skipper n'avait peur de personne. Une fois, continua Jimmy, il y avait un prof qui l'avait gonflé, le Skipper, à la soirée dansante du vendredi, c'était. Et il l'avait tabassé à mort. Il avait expédié ce foutu chaperon en réparation, si vous entravez ce que je veux dire. Il était comme ça, son poteau, Skipper Brannigan. Tous avaient écouté cette histoire religieusement et opiné, qui bouffant ses rockets, qui suçant ses popsicles ou fumant sa Kent. Ils savaient tous que Skipper Brannigan n'avait pas de couille au cul et que Jimmy disait des conneries, mais aucun n'avait moufté. putain, ça non. S'il faisait pas semblant de croire aux mensonges gros comme des maisons de Jimmy Pollio, personne ferait semblant de croire aux leurs. Tommy Fredericks se prononça pour John Parelli, Georgie Pratt pour Xaba Drabnik, connu aussi dans le quartier comme le Hongrois fou. Frank Duganelli porta son choix sur Larry McCain, même si Larry était en centre de redressement. Larry, il faisait la loi, putain, dit Frank. Le tour d'Henry Dean était venu. Il accorda à la question toute la réflexion qu'elle méritait, puis entoura de son bras les épaules de son frère médusé. Eddie, dit-il, mon frangin, c'est lui mon homme. Il l'avait dévisagé, tombant tous des nus, le plus étonné étant Eddie lui-même. Sa mâchoire avait failli lui choir au mollet. C'est alors que Jimmy Pollio avait dit « Arrête de te déconner, Henry, c'est une question sérieuse. Qui t'aimerait avoir en renfort si jamais cette chérie te tombait dessus ?»« Mais je suis sérieux, » avait répondu Henry. « Pourquoi Eddie ?» avait demandé Georgie Pratt, faisant écho à la question qui trottait dans la tête d'Eddie lui-même. « Il pourrait pas casser une noix même si elle était déjà ouverte. Alors pourquoi, bordel de merde ?» Henry réfléchit encore un peu. Non pas, Eddie en était convaincu, parce qu'il ne savait pas pourquoi, mais parce qu'il lui fallait trouver la façon d'exprimer la chose. Puis, il fit... Parce que lorsqu'Eddie est en train de zoner, il pourrait convaincre le diable en personne de se foutre le feu au cul. L'image de Jake réapparut, un souvenir chevauchant l'autre. Jake frottant de l'acier contre du silex, projetant des étincelles sur le petit bois de leur feu de camp, étincelles qui faisaient long feu. Il pourrait convaincre le diable de se foutre le feu au cul. « Plus près ton silex !» disait Roland. Et maintenant, un troisième souvenir s'en mêlait. Roland devant la porte qu'ils avaient trouvée au bout de la plage. Roland, brûlant de fièvre, à deux doigts de la mort, tremblant comme une maraca, toussant, ses yeux bleus bombardiers fixés sur Eddie. Roland, qui lui avait dit « Approche-toi, Eddie, approche, au nom de ton père. » Parce qu'il voulait me mettre le grappin dessus, songeait Eddie. Faiblement, comme provenant à travers l'une de ces portes magiques de quelque autre monde, il entendit Blaine les avertir que la partie finale avait commencé. S'ils avaient gardé leur meilleure devinette en réserve, le moment était venu de les débiter fissa. Il leur restait une heure. Une heure, pas plus. Son esprit tenta de se raccrocher à ça, mais Eddie les prena plus loin. Quelque chose se produisait dans son fort intérieur, du moins pria-t-il que ce fût bien le cas. Une sorte d'association d'idées du désespoir. Et il n'allait pas tout faire foirer pour des histoires de deadlines, conséquences et autres conneries. S'il bastait, il perdrait jusqu'à sa moindre chance. En un sens, c'était comme percevoir quelque chose dans un morceau de bois, quelque chose qu'on pouvait tailler, un arc, une fronde, ou bien encore une clé, pour ouvrir quelque porte inimaginable. On ne pouvait pas regarder très longtemps, cependant. Du moins au début. C'était presque comme s'il vous fallait tailler ce morceau de bois, le dos tourné. Il sentait les turbines de Blaine gagner en puissance au-dessous de lui. Intérieurement, il voyait le silex étinceler contre l'acier, et il entendait Roland dire à Jake de rapprocher le silex. « Et ne le frappe pas contre l'acier, Jake. Frotte-le. »« Qu'est-ce que je fous là? Si c'est pas ce que je veux, pourquoi mon esprit n'arrête pas de revenir? Parce que c'est le plus près dont je peux m'approcher tout en restant hors de la zone douloureuse. Rien qu'une souffrance de taille moyenne, en fait. Mais ça me fait penser à Henry. Henry qui me mettait plus bactère. Mais Henry a dit que tu pourrais convaincre le diable de se foutre le feu au cul. Oui, je l'ai toujours aimé parce qu'il a dit ça. C'était super. Et maintenant ?» Eddie voyait Roland placer les mains de Jake, l'une tenant le silex, l'autre l'acier, plus près du petit bois. Jake était nerveux. Eddie s'en était aperçu. Roland aussi. Et pour calmer sa nervosité, détourner son esprit de la responsabilité d'allumer le feu, Roland avait... Il avait posé à l'enfant une devinette. Eddie Dean tira la chevillette de sa mémoire, et cette fois, la bobinette chut. 2. Le point clignotant vert se rapprochait de Topeka, et pour la première fois, Jake sentit une vibration, comme si la voix s'était délabrée, au point que les compensateurs de Blaine n'arrivaient plus vraiment à faire face au problème. Avec la sensation retrouvée des vibrations, était revenue celle de la vitesse. Les parois et le plafond du compartiment de la baronnie restaient obstinément opaques, mais Jake découvrit qu'il n'avait pas besoin de voir le paysage défiler, flouté, pour se le représenter. Blaine fonçait à plein régime à présent, semant derrière lui son dernier bang supersonique à travers les terres perdues jusqu'au terminus de l'entre-deux-mondes. Et Jake découvrit aussi qu'il lui était facile d'imaginer les butoirs de transacier à l'extrémité du monorail. Il serait peint de rayures jaunes et noires en diagonale. Il ignorait comment il pouvait le savoir, il en était pourtant sûr.
« Plus que 25 minutes !» dit Blaine avec son sempiternel contentement de soi. « Tu m'en poses une autre, pistolero ?»«
Je ne crois pas, Blaine, » répondit Roland d'un ton épuisé. « J'en ai fini. Tu m'as vaincu. » Jake ? Jake se leva et fit face à la carte itinéraire. Dans sa poitrine, son cœur semblait cogner plus lentement et plus violemment à la fois, chaque battement comme un coup de poing sur la peau d'un tambour. Otté, tapis à ses pieds, le regardait anxieusement.
« Salut, Blaine !» dit Jake, s'humectant les lèvres.
« Salut, Jake de New York !»
La voix faisait l'aimable, telle celle d'un vieux dégueulasse qui tripotait les enfants derrière les buissons.
« Tu veux me poser des devinettes tirées de ton livre ? Nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. »«
Oui, » dit Jake. « Je vais te poser ces devinettes. Et pour chacune, il faudra me dire ce que tu comprends de sa vérité, Blaine. »
« Voilà qui est bien parlé, Jake de New York. Je ferai ce que tu me demandes. »
Jake ouvrit le livre à l'endroit où il avait glissé son doigt. 10 devinettes, 11, en comptant celle de Samson qu'il gardait pour la bonne bouche. Si Blaine répondait à toutes, comme Jake n'en doutait plus désormais, Jake viendrait s'asseoir près de Roland, prendrait Otté sur ses genoux et attendrait la fin. Après tout, il existait d'autres mondes que celui-ci.
Écoute-moi, Blaine. Dans un tunnel de ténèbres, se tapit une bête de fer. Elle ne peut attaquer qu'à reculons. Qu'est-ce que c'est ?
Une balle dans le canon.
Pas d'hésitation. Marche dessus en vie, elles ne diront mi. Mais si elles ont péri, tu leur arracheras des cris. C'est qui ?
Des feuilles tombées de l'arbre.
Toujours pas d'hésitation. Mais pourquoi Jake, sachant au fond de son cœur la partie perdue, ressentait-il un tel désespoir, une telle amertume, une telle colère ?
Parce qu'il est vraiment chiant. Voilà pourquoi. Blaine est maxi chiant. J'aimerais bien lui claquer le beignet au moins une fois. Je crois même que l'arrêter ne vient qu'en second sur ma liste de priorités.
Jake tourna la page. Il n'était plus très loin de la partie arrachée de Traderidera, devine-moi. Il sentait sous son doigt comme une souche déchiquetée, tout près de la fin du livre. Il revit Aaron Dipnao dans le restaurant spirituel de Manhattan, lui disant de repasser quand il voulait, de venir faire une partie d'échecs. Et en plus, ce gros tas faisait du super bon café. Une bouffée de mal du pays, forte comme la mort, le balaya.
Il sentait qu'il aurait vendu son âme, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil sur New York. Ah, merde, il l'aurait vendu rien que pour se remplir les poumons des gaz d'échappement sur la 42e rue, à l'heure de pointe. Il repoussa cette idée et passa à la devinette suivante. Je ne suis qu'émeraude et diamant, si la lune me perd, le soleil me retrouve et me boit vivement. Qui suis-je ?
La rosée.
Toujours aussi implacable. Toujours pas d'hésitation. Le point vert se rapprochait de Topeka, couvrant la dernière ligne droite de la carte itinéraire. Jake posa ses devinettes et Blaine y répondit, l'une après l'autre. Quand Jake tourna la dernière page, il vit dans un encadré un message de l'auteur, de l'éditeur, ou de celui, Dieu sait comment on l'appelle, qui collationne les livres de ce genre. Nous espérons vous avoir bien diverti grâce à cette combinaison unique d'imagination et de logique que l'on définit par le terme de devinette.
Eh ben, pas moi, songea Jake. Je ne me suis pas diverti une seule fois que la peste t'étouffe.
Cependant, quand il regarda la question au-dessus de l'encadré, il reprit un soupçon d'espoir. Il lui sembla que, dans ce cas-là, du moins, ils avaient vraiment gardé la meilleure pour la fin. Sur la carte itinéraire, le point vert n'était plus qu'un cheveu de Topeka.
« Dépêche, Jake !»
murmura Suzanne.
« Blaine ?»«
Oui, Jake de New York. »«
Je vole, mais n'ai point d'aile. Je vois, mais n'ai point d'yeux. Je galope, mais n'ai point de pattes. Plus féroce qu'une bête fauve, plus forte que l'ennemi. » Je suis rusé, implacable et immense. Au final, je règne sur tout et tous. Qui suis-je ?
Le pistolero avait relevé ses yeux bleus qui brillaient. Susanna tourna un visage plein d'expectative vers la carte itinéraire. Et pourtant, la réponse de Blaine fusa aussi prompte que jamais.
L'imagination humaine.
Jake envisagea un bref instant de chipoter, puis se dit « À quoi bon perdre notre temps ?» Comme toujours, la réponse, quand elle était juste, paraissait découler d'elle-même.
« Grand merci, Cy Blaine, tu as dit vrai. »
« Et loi du jour de fête est presque à moi, j'intuite. » Nous sommes à 19 minutes et 50 secondes du terminus. Tu veux encore dire quelque chose, Jake de New York ? Mes capteurs visuels indiquent que tu as atteint la fin de ton livre qui n'était pas si bon que ça en fin de compte et sur lequel j'ai fondé de trop grands espoirs.
Décidément, tout le monde y va de sa putain de critique,
dit Susanna sotto voce. Elle essuya une larme à l'œil. Sans la regarder, le pistolero lui prit la main et la serra très fort.
« Il m'en reste encore une, Blaine, »
dit Jake.
« Excellent !»«
De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. »
Cette devinette provient du livre saint que l'on appelle l'Ancien Testament de la Bible du roi James.
Blaine eut l'air amusé, et Jake sentit son dernier espoir l'abandonner. Il en aurait pleuré, pas tant de peur que de frustration.
Elle est posée par Samson, l'homme fort. Celui qui mange est un lion. La douceur est celle du miel des abeilles qui ont fait leur ruche dans le crâne du lion. Encore une ? Il te reste un peu plus de 18 minutes, Jake.
Jake fit non de la tête. Il lâcha très déridé à devine-moi et ne put réprimer un sourire en voyant Otte le prendre entre ses dents. Et tendre son très long cou pour le lui rendre.
Mince alors, mon petit cow-boy, honte à toi avec un grand O.
Jake trouva carrément insupportable cette nouvelle imitation de John Wayne vu les circonstances.
On dirait que, ben, que mes gagnés, c'est toi, à moins que quelqu'un d'autre y veuille prendre la parole. Qu'est-ce que t'en dis, ôté de l'entre-deux-mondes? T'aurais pas quelques devinettes, mon petit pote bafouilleux?
Ôté, répondit le bafouilleux, le museau dans le livre. Jake, toujours souriant, le lui prit et vint s'asseoir près de Roland, qui lui passa un bras autour des épaules.
Et toi, Susanna de New York?
Elle fit non de la tête sans même lever les yeux. Ayant retourné la main de Roland dans la sienne, elle caressa les moignons cicatrisés de ses deux premiers doigts.
Et toi, Roland, fils de Steven, tu ne te souviens pas d'une autre devinette des jours de fête de Gilead?
Roland, lui aussi, secoua la tête. C'est alors que Jake vit Edidine relever la sienne. Un étrange sourire flottait sur ses lèvres et dans ses yeux brillait une étrange lueur. Jake prit conscience que tout espoir ne l'avait pas déserté après tout. Il fleurissait à nouveau en lui, rouge de mille feux, comme une rose, oui, comme une rose en pleine poussée de fièvre de son été. Blaine, appela Eddie à voix basse. Aux oreilles de Jake, son ton paraissait bizarrement étranglé.
Oui, Eddie de New York.
Le dédain était manifeste. J'ai une ou deux devinettes à te poser, annonça Eddie. Histoire de passer le temps, avant d'arriver à Topeka, tu vois? Non, se dit Jake. Eddie n'a pas un son de voix étranglé. Il a celui de quelqu'un qui étouffe un fou rire.
Je t'écoute, Eddie de New York.
3. Assis à écouter Jake dérouler jusqu'à épuisement du stock ses devinettes, Eddie avait rêvassé à l'histoire de loi du jour de fête de Roland. Puis de là, son esprit était revenu à Henry, voyageant du point A au point B par la magie de l'association d'idées. Ou, si on voulait être zen, via la Transvolatile Airlines, de loi à la dinde. Henry et lui avaient parlé une fois de décrocher de l'héros. Henry avait affirmé que la cold turkey n'était pas la seule méthode. D'après lui, on pouvait appliquer aussi celle de la cool turkey. Eddie avait alors demandé à Henry comment il appelait un accroc qui s'administrait à mauvais shoot. Et Henry lui avait répondu aussi sec, un pigeon rôti. Ils avaient bien rigolé. Mais à présent, si longtemps, si étrangement plus tard, la blague prenait des airs de devoir bientôt s'appliquer à Dean Junior, sans parler des nouveaux amis de Dean Junior. Avant longtemps, il y avait au lieu de craindre qu'ils seraient tous cramés, pigeons ou pas pigeons. À moins que tu puisses t'en tirer en zonant comme un chef. Oui? Alors, vas-y, Eddie. C'était la voix de Henry à nouveau, ce vieil occupant de sa tête. Mais désormais, Henry avait le verbe haut et clair. Henry avait la voix d'un ami, et plus d'un ennemi, comme si tous les vieux conflits étaient enfin aplanis, toutes les haches de guerre enterrées. « Vas-y, oblige le diable à se foutre le feu au cul. Ça te fera un petit peu mal, mais t'as connu pire. Et merde, je t'ai fait pire que ça et t'as survécu, très bien même. » Et tu sais où tu dois chercher. Et comment? Dans leur palabre autour du feu de camp, quand Jake avait fini par réussir à allumer, Roland avait posé une devinette au gosse pour relâcher sa tension. Jake avait fait jaillir une étincelle dans le petit bois. Alors ils avaient tous fait cercle autour du feu et avaient parlé. Parlé et joué aux devinettes. Eddie savait aussi autre chose. Blaine avait répondu à des centaines de devinettes pendant qu'il roulait vers le sud-est le long du sentier du rayon, et les autres croyaient qu'il avait répondu à toutes sans hésiter. Eddie avait cru la même chose, mais en repensant à leur joute à présent, il prit conscience d'une chose fort intéressante. Blaine avait hésité. Une seule fois. Et il était furax aussi, tout comme Roland. Le pistolero, qu'Eddie exaspérait souvent, ne s'était mis vraiment en colère contre lui qu'une seule fois, quand, après avoir sculpté la clé, Eddie avait manqué s'étouffer. Roland avait tenté de dissimuler l'étendue de sa colère, avait tâché de la faire prendre pour une simple crise d'exaspération, mais Eddie avait senti ce qu'elle masquait par en dessous. Il avait vécu assez longtemps aux côtés d'Henry Dean pour s'être finement exercé aux mauvaises ondes. Il s'était senti blessé aussi, pas de la colère de Roland en elle-même, mais du mépris dont elle se teintait. Le mépris avait toujours été l'une des armes favorites de Henry. « Pourquoi le bébé mort est-il passé de l'autre côté ?» avait demandé Eddie. « Parce qu'on l'avait attaché à la patte du poulet qui a traversé la route. Gnac, 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 gnac. » Un peu plus tard, Eddie avait essayé de défendre sa devinette, plaidant qu'elle était de mauvais goût, mais non dénuée de sel. La réponse de Roland avait ressemblé étrangement à celle de Blaine. Qu'elle soit de bon goût ou de mauvais goût, peu m'importe, elle n'a pas de sens, elle est donc insoluble. C'est ce qui la rend stupide. Une bonne devinette ne l'est jamais. Mais au moment où Jake finissait de poser ses devinettes à Blaine, Eddie comprit une chose fabuleuse et libératrice. L'adjectif « bonne » était à prendre. Il l'avait toujours été, le serait toujours. Celui qui l'utilisait pouvait bien avoir 1000 ans et tirer comme Buffalo Bill, l'adjectif était toujours bon à ramasser. Roland avait reconnu n'avoir jamais excellé au jeu de devinettes. D'après son instructeur, Roland réfléchissait trop. D'après son père, il manquait d'imagination. Quelle que fût la raison, Roland de Gilead n'avait jamais remporté un concours de jour de fête. Il avait survécu à tous ses contemporains, ce qui représentait une sorte de victoire, mais n'avait jamais ramené l'oie chez lui. « J'ai toujours dégainé plus vite que mes potes, mais j'ai jamais été très bon pour chercher midi à 14h. » Eddie se rappela avoir tenté d'expliquer à Roland que les blagues étaient des devinettes destinées à vous aider à améliorer ce don souvent laissé en friche, mais Roland l'avait ignoré. De la même façon, avait supposé Eddie qu'un daltonien ignorerait la description d'un arc-en-ciel faite par un quidam qui ne l'est pas. Eddie se dit qu'il se pourrait bien que Blaine, lui aussi, ait du mal à chercher la petite bête. Il prit conscience de Blaine, demandant aux autres s'il n'avait plus de devinette, allant jusqu'à poser la question à Otte. Il perçut l'ironie moqueuse de la voix de Blaine, la perçut très clairement. Et comment ? Parce qu'il était de retour de cette zone légendaire, de retour pour voir s'il arrivait à convaincre le diable de se foutre le feu au cul. Aucun flingue ne l'aiderait cette fois, mais peut-être était-ce mieux comme ça.
Peut-être que c'était mieux parce que...
Parce que je tire avec ma tête. Ma tête. Que Dieu m'aide à descendre cette machine à calculer, bouffie comme une outre avec ma tête. Qu'il m'aide à la descendre en lui faisant chercher midi à 14h.
Blaine, fit-il.
Et quand l'ordinateur lui reconnut, il ajouta...
J'ai une ou deux devinettes à te poser.
En parlant, il découvrit quelque chose de merveilleux. Il luttait pour ne pas éclater de rire.
4. Je t'écoute, Eddie de New York.
Pas le temps de prévenir les autres de se tenir sur leur garde, que tout pouvait arriver, mais aller voir, c'était pas la peine. Eddie les oublia et concentra entièrement son attention sur Blaine. Qu'est-ce qu'il y a ? 4 roues ? Et 1 million d'ailes ?
Un tombereau d'ordures grouillant de mouches, je l'ai déjà dit.
De la désapprobation et de l'aversion ? Ouais, probable, tout ça sourdait de cette voix.
Es-tu stupide ou distrait au point de ne pas t'en souvenir ? C'est la première devinette que vous m'avez posée.
Oui, songea Eddie. Et ce qu'on n'a pas été foutu de remarquer, obsédé qu'on était par l'idée fixe de te coller à l'aide d'un remue-ménage tiré du passé de Roland ou du livre de Jake, c'est que la joute a bien failli s'achever là.
Tu l'as pas aimé, celle-là, hein, Blaine?
Je l'ai trouvée excessivement stupide, reconnut Blaine. C'est peut-être pour ça que tu me la poses de nouveau. Qui se ressemble, ça semble, Eddie de New York, n'est-ce pas comme ce qu'on dit ?»
Un sourire illumina le visage d'Eddie. Il menaça du doigt la carte itinéraire.
« Tu peux me briser le dos et les os, mais pas me blesser avec des mots. Ou comme on disait dans mon quartier, « Traite-moi comme un chien, et moins que rien, n'empêche que j'aurai toujours la trique pour niquer ta mère. »
« Dépêche !» lui chuchota Jake. « Si tu peux faire quelque chose, fais-le !»«
Il n'aime pas les questions bêtes, » fit Eddie. « Il n'aime pas les jeux bêtes. » Et dire qu'on le savait. On le savait grâce à Charlie le Chouchou. Comment on a pu être aussi aveugle ?«
Merde, c'était celui-là, le livre aux réponses, pas Tradéridira, devine-moi !»
Et dire qu'on s'en est jamais douté.
Eddie chercha l'autre devinette figurant dans la composition de fin d'année de Jake, puis, l'ayant trouvée, la posa.
« Blaine, quand est-ce qu'une porte n'est plus une porte ?»
À nouveau, et pour la première fois depuis que Susanna lui avait demandé ce qui a quatre roues et un million d'ailes, retentit un claquement particulier, celui d'une langue contre le palais. Un ange passa plus vite que celui qui avait suivi la première devinette posée par Susanna, mais impossible de ne pas le remarquer, Eddie l'entendit nettement.
« Quand elle est hors de ses gonds, évidemment !»
dit Blaine d'un ton sévère et tristouné.
« Il te reste 13 minutes 5 secondes avant le terminus, Eddie de New York. Tu as envie de mourir la bouche pleine de devinettes aussi stupides ?»
Eddie se carra sur son siège, les yeux rivés sur la carte itinéraire. Et malgré la sueur qui lui dégoulinait allègrement dans le dos, son sourire s'élargit encore.
« Cesse de pleurnicher, mon pote !»
Si tu veux avoir le privilège de nous expédier salir le paysage, va falloir que tu te coltines une poignée de devinettes qui sont pas tout à fait du niveau de ta logique.
Je t'interdis de me parler sur ce ton!
Sinon quoi?
Tu me tueras? Ne me fais pas rire. Joue!
T'as accepté la partie, alors joue!
La carte itinéraire émettait de brefs éclairs de lumière rose.
Tu le mets en colère, se lamenta Petit Blaine.
Oh, tu le mets tellement en colère.
Tire-toi, petit merdeux, dit Eddie pas très méchamment, et quand la lueur rose s'estompa, révélant une fois encore le point vert clignotant qui coïncidait grosso modo avec Topeka, Eddie ajouta.
« Réponds un peu à celle-là, Blaine. Pince-mi et Pince-moi s'en allèrent sur la Seine d'en bateau. Pince-mi tomba à l'eau. Qui resta ?»«
C'est indigne de notre concours, je ne répondrai pas. »
Et sur ce dernier mot, la voix de Blaine changea de registre. Elle ressemblait maintenant à celle d'un gamin de 14 ans en pleine mue. Les yeux de Roland lançaient des flammes à présent.
« Que dis-tu, Blaine ? J'aimerais comprendre. Tu jettes l'éponge ?»«
Non, bien sûr que non, mais... »«
Alors réponds, si tu peux. Réponds à cette devinette. »«
C'est pas une devinette !»
chevrota presque Blaine.
« C'est une blague, un truc idiot bon à faire ricaner les enfants dans la cour de récréation !»
« Réponds tout de suite, sinon je déclare le concours terminé et notre casse-tête vainqueur !» dit Roland.
Il s'exprimait du ton sec et plein de confiance en soi qu'Eddie lui avait entendu pour la première fois à River Crossing.
« Tu dois répondre, car tu te plains de la stupidité des devinettes, non pas d'un non-respect des règles sur lesquelles nous sommes tombés mutuellement d'accord !»
Encore un de ces claquements, mais cette fois beaucoup plus fort, si fort qu'Eddie en grimaça de douleur. Ôté coucha ses oreilles contre son crâne. Le bruit fut suivi du plus long silence que Blaine ait observé jusque-là. 3 bonnes secondes au moins, puis...
« Pince-moi !» fit Blaine d'un ton boudeur. « Je me sens déshonoré de devoir répondre à une devinette si indigne de moi !»
Eddie leva sa main droite. Se frotta le pouce et l'index l'un contre l'autre.
qu'est-ce que ça signifie, stupide individu ?
C'est le plus petit violon du monde en train de jouer « Mon cœur te pisse à l'arrêt », répondit Eddie. Jake fut pris d'une crise de fou rire inextinguible. Mais ne tiens pas compte de cet humour new-yorkais à quatre balles. Revenons à notre concours. Pourquoi les agents de police portent-ils des ceintures ? Les lumières du compartiment de la baronnie se mirent à clignoter. Un drôle de phénomène affectait également les parois. Elles commencèrent à s'ouvrir et à se fermer en fondu, tendant vers la transparence, peut-être, avant de se pacifier à nouveau. Assister à ça, même du coin de l'œil, fit qu'Eddie ne se sentait plus tout à fait dans son assiette.
« Blaine, réponds !»«
Réponds !» renchérit Roland. « Sinon, je déclare le concours terminé et je te demanderai de tenir ta promesse. »
Quelque chose effleura le coude d'Eddie. Baissant les yeux, il aperçut la jolie menotte de Susanna. Il la prit, la pressa en lui souriant. Il espéra que ce sourire reflétait plus de confiance en soi qu'il n'en éprouvait. Ils allaient remporter le concours, il en était quasiment sûr, mais sans avoir la moindre idée de la réaction de Blaine quand cela arriverait, si cela arrivait.
« Pour retenir leurs pantalons !»
énonça la voix de Blaine avant de répéter la question sous forme d'affirmation.
« Pour retenir leurs pantalons, une devinette basée sur l'extrême simplicité de... »«
Très bien !» C'est la bonne réponse, Blaine. Mais n'essaie pas de gagner du temps, tu veux bien ? Ça marche pas. Suivante.
J'insiste, je veux que tu arrêtes de me poser des questions bêtes.
Alors toi, arrête le monorail, dit Eddie. Si ça t'énerve autant, arrête-toi pile ici, et moi aussi j'arrêterai.
Non.
Ok. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on lance blanc et qui retombe jaune ?
Un nouveau claquement suivi, si fort cette fois qu'on avait l'impression d'une pointe d'aiguille enfoncée dans le tympan. Une pause de 5 secondes. À présent, le point vert était si proche de Topeka sur la carte itinéraire qu'il illuminait le nom comme un néon chaque fois qu'il clignotait. Puis...
Un œuf.
C'était la bonne réponse à une devinette qu'Eddie avait entendue pour la première fois dans l'impasse derrière chez Dali, ou à un point de ralliement du même genre. Mais Blaine avait apparemment payé le prix fort, en contraignant son esprit à utiliser un circuit pouvant concevoir la réponse. Les lumières du compartiment de la baronnie lançaient des éclairs plus violents que jamais, et Eddie entendait un bourdonnement assourdi venant de l'intérieur des parois, le genre de son qu'émet votre ampli stéréo juste avant que cette saloperie tombe en rade. La carte itinéraire crachotait une lueur rose.
« Stop !»
cria Petit Blaine de la voix nasillarde d'un personnage d'un vieux dessin animé de la Warner Bros.
« Arrêtez ça ! Vous allez le tuer !»«
Et qu'est-ce que tu crois qu'il essaie de nous faire, petit merdeux ?» songea Eddie. Il envisagea d'en balancer une à Blaine que Jake lui avait apprise, la fameuse nuit de palabres assis autour du feu de camp. Qu'est-ce qui est vert, pèse 100 tonnes et vit au fond de l'océan ? Moby Sniff, la grande baleine morveuse. Puis il renonça. Il voulait creuser plus profond, en deçà des frontières de la logique qu'il n'était permis, et il pouvait y arriver. Il ne croyait pas pour ça devoir faire plus surréaliste que, disons, un écolier possédant une collection passable de cartes des crados pour baiser royalement et, définitivement, la gueule de Blaine. Parce que, nonobstant les nombreuses émotions que ces circuits dipolaires imaginatifs lui permettaient de contrefaire, il n'était rien d'autre qu'une machine, un ordinateur. Suivre Eddie si loin dans la quatrième dimension de Devinette Land avait ébranlé la santé d'esprit de Blaine.
Pourquoi les gens vont au lit, Blaine ?
Parce que... Nom de Dieu, parce que...
Un piaillement en sourdine commença à retentir en dessous d'eux, et soudain le compartiment de la baronnie fut violemment secoué de droite à gauche. Susanna poussa un hurlement. Jake fut projeté sur ses genoux. Le pistolero les rattrapa tous les deux.
Parce que le lit ne viendra pas à eux, mon dit Dieu, il vous reste 9 minutes et 50 secondes.
Abandonne, Blaine, dit Eddie. Arrête avant que je t'explose complètement la cervelle. Si tu renonces pas, c'est ce qui va t'arriver. On le sait, tous les deux.
Non.
J'ai 1 million de ces conneries-là en réserve. J'ai entendu que ça toute ma vie. Elles se sont collées dans ma mémoire comme les mouches au papier tu mouches. Bah, pour d'autres personnes, c'est des recettes de cuisine. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu te rends?
Non. Il vous reste 9 minutes et 30 secondes.
Ok, Blaine. Tu l'auras voulu. Voici celle qui va t'écrabouiller. Pourquoi le bébé mort est passé de l'autre côté? Le monorail se livra à un nouveau coup de roulis gigantesque. Eddie ne comprit pas comment il réussit à rester sur la voie à la suite de ça. Et pourtant, les criailleries sous eux se faisaient plus fortes. Les parois, le sol et le plafond du compartiment se mirent à alterner en un cycle fou, opacité et transparence. À un moment, ils étaient cloîtrés, au suivant, précipités en avant, au-dessus d'un paysage baigné d'un jour grisâtre et qui s'étirait sans le moindre relief jusqu'à un horizon barrant ce monde en ligne droite. La voix tombant des haut-parleurs était maintenant celle d'un enfant pris de panique.
« Je le sais, juste un instant, je le sais, recherche en cours, tous les circuits logiques en fonction !»«
Réponds !» dit Roland.
« Il me faut plus de temps, on doit me l'accorder !»
Il y avait maintenant une sorte de triomphe loufoque dans ses éclats de voix.
« Aucune limite n'a été fixée au temps de réponse. Roland de Gilead, détestable pistolero, venu d'un passé qui aurait dû rester mort !»
C'est vrai, acquiesça Roland. Aucune limite de temps n'a été fixée. Tu as parfaitement raison. Mais tu peux pas nous tuer si tu n'as pas donné de réponse à toutes les devinettes, Blaine. Et Topeka n'est plus très loin. Réponds.
Le compartiment de la baronnie se fondit dans l'invisibilité encore une fois. Et Eddie vit ce qui lui parut un grand silo à grains, tout rouillé, passé comme l'éclair. Il resta juste assez longtemps dans son champ de vision pour qu'il l'identifie. Il évaluait maintenant la vitesse de folie à laquelle il voyageait, peut-être 500 km à l'heure de mieux que la vitesse de croisière d'un avion gros porteur.
« Laissez-le tranquille !» gémit la voix de petit Blaine. « Vous êtes en train de le tuer, je vous dis, en train de le tuer !»«
Et c'est-il pas tout juste, c'est qui voulait ?»
demanda Susanna avec la voix de Detta Walker.
Mourir ? C'est bien ce qu'il a dit, on s'en fout, de toute façon.
T'es pas un mauvais, toi, petit Blaine. Mais même un monde aussi merdique que celui-là, c'est un meilleur quand ton grand frère il aura débarrassé le plancher. Nous, on n'a pas arrêté juste de faire objection à ce qu'il nous embarque avec lui.
« C'est ta dernière chance, » reprit Roland. « Tu réponds, ou bien loi est pour nous, Blaine. »«
Je... Vous... 16 langues 33, toutes consignes souscrites, anti-anti, au cours de toutes ces années, rayon, déluge, pythagoricien, logique, cartésienne... Puis-je, osais-je, une pêche, manger une pêche, Allman Brothers, Patricia, ma puce, sourire et coup de lapin, pendule et cadran, tic-tac, 11 heures, l'homme est dans la lune, et is ready to rock, incessamment, incessamment, sous peu, mon cher, ma tête, Blaine, Blaine, on sera, Blaine, répondra.
Blaine criait maintenant avec la voix d'un tout petit enfant, puis adopta une autre langue et se mit à chanter. D'après Eddie, c'était en français. Il ne reconnaissait aucun mot, mais à l'intro de la batterie, il reconnut parfaitement la chanson Velcro Fly par ZZ Top. La vitre qui protégeait la carte itinéraire explosa. Un instant plus tard, celle-ci explosa à son tour dans son boîtier, révélant un scintillement d'ampoule et un écheveau labyrinthique de circuits. Les lumières pulsaient au rythme de la batterie. Soudain, Une flamme jaillit dans un éclair bleu, faisant grésiller le contour du trou dans la paroi correspondant à la carte itinéraire qu'elle calcina. Du fin fond de la paroi, en provenance du mufle de Blaine en forme de balle de revolver, retentit un énorme grincement.
« Parce qu'on l'avait attaché à la patte du poulet qui a traversé la route, du con la joie !»
gueula Eddie. Il se mit debout et se dirigea vers le trou fumant où se trouvait, il y avait peu, la carte itinéraire. Susanna attrapa Eddie par un pan de sa chemise, mais il le remarqua à peine. Il savait à peine où il se trouvait, en fait. L'ardeur au combat l'avait envahi et le consumait de sa juste fièvre, faisant grésiller sa vision, frire ses synapses et rôtir son cœur dans son sein rougeoyant. Il avait Blaine dans le collimateur, et bien que la chose qui se dissimulait derrière la voix fût déjà mortellement blessée, il était incapable de cesser d'appuyer sur la détente. « Je tire avec ma tête !»« Quelle est la différence entre une charrette pleine de boules de bowling et une charrette pleine de rats crevés ?» délirait Eddie. « C'est qu'on peut pas décharger les boules de bowling à la fourche !» Un hurlement terrible mêlant la colère et l'angoisse sortit du trou de feu la carte itinéraire. Il fut suivi d'une bouffée de flammes bleues, comme si quelque part à l'avant du compartiment de la baronnie, un dragon électrique l'avait violemment vomi. Jake cria un avertissement, mais Eddie n'en eut pas besoin. Ses réflexes s'étaient aiguisés en vraies lames de rasoir. Il plongea et la rafale d'électricité lui frôla l'épaule droite au passage, lui hérissant les cheveux sur la nuque. Il dégaina son arme, un lourd calibre 45 à la crosse en bois de santal poli par l'usage, l'un des deux revolvers que Roland avait ramené de l'entre-deux-mondes en ruine. Il continua de se diriger vers l'avant du compartiment sans cesser de parler, évidemment, comme le disait Roland. Eddie mourait en parlant. Comme son vieil ami Cuthbert, Eddie connaissait de bien pires façons de tirer sa révérence, mais une seule meilleure.
« Dis donc, Blaine, saleté de sadique enfoiré, tant qu'on en est aux dunettes, tu sais quelle est la plus grande énigme d'Orient ? Beaucoup de Chintok fume, mais de Chiang Kai-shek ? T'as pigé ? Non, t'es tombé étranger ? Écoute-moi encore celle-là. Pourquoi cette femme a-t-elle appelé son fils 7 et demi ? Parce qu'elle a tiré son nom d'un chapeau ! »
Eddie avait atteint le carré qui pulsait. Il braqua le revolver de Roland et le compartiment de la baronnie s'emplit soudain de son tonnerre. Il logea les 6 cartouches dans le trou, éventant le chien du plat de la main, comme Roland le lui avait enseigné, sachant que c'était la chose à faire, la seule qui convenait, que c'était ça, le cas, nom de Dieu, ce putain de cas, que c'était la façon d'en finir quand on était un pistolero. Il était l'un des membres de la tribu de Roland, fort bien, son âme était probablement damnée et vouée au plus profond puits de l'enfer, mais il n'aurait pas donné sa place pour toute l'héroïne d'Asie.
« Je te déteste !» cria Blaine de sa voix puérile. Elle avait perdu toutes ses aspérités, était devenue une bouillasse écœurante. « Je te déteste pour toujours !»«
C'est pas mourir qui t'embête, hein ?»
Les lumières dans le trou où la carte itinéraire s'était trouvée diminuaient d'intensité. D'autres flammes bleues jaillirent, mais Eddie eut à peine besoin de se reculer pour les éviter. Elles étaient courtes et faibles. Bientôt, Blaine serait mort, et bien mort, comme les ados et les gris de Lud.
« C'est perdre qui t'embête !»«
Le mot dégénéra en bourdonnement. Le bourdonnement se transforma à son tour en une sorte de bégaiement sourd, puis plus rien. Eddie regarda autour de lui. Il vit Roland enlaçant Susanna, un bras passé autour de ses fesses comme on tient un bébé. Elle saignait de ses cuisses la taille de Roland. Jake se tenait de l'autre côté du pistolero, ôté à ses talons. Le trou de la carte itinéraire dégageait une odeur particulière de matière carbonisée, pas vraiment désagréable. Aux narines d'Eddie, elle évoquait les feux de feuilles mortes en octobre. Autrement, le trou béait, noir et éteint comme l'œil d'un cadavre. « Ton noix est cuite, Blaine, » songea Eddie. « T'es plus qu'un pigeon rôti. » Joyeux Noël, putain. 5. Le piaillement sous le monorail se tut. Il y eut un dernier et final grincement sourd en provenance de l'avant, puis ce bruit-là cessa lui aussi. Roland se sentit vaciller légèrement en avant sur ses jambes et tendit sa main libre pour garder l'équilibre. Son corps sut ce qui s'était passé avant sa tête. Les turbines de Blaine venaient de baisser pavillon. À présent, il glissait simplement le long de la voie. Mais...
« En arrière, toutes !» fit-il. « Nous sommes en roue libre. Si nous sommes suffisamment près du terminus de Blaine, nous pouvons encore nous écraser. »
Il les mena par-delà les restes virant à la flaque de la sculpture de glace, cadeau de bienvenue de Blaine, vers l'arrière du compartiment.
« Et n'approchez pas de ce truc !» dit-il, désignant l'instrument qui avait tout du croisement d'un piano et d'un clavecin dressé sur une petite plateforme. « Il pourrait se mettre à valser. »«
Mais Dieu, comme j'aimerais voir où nous sommes !»«
À plat ventre et la tête dans vos bras !»
Ils firent ce qu'il leur avait ordonné, et Roland les imita. Il resta étendu, là, le menton au ras de l'épaisse moquette bleu roi, les yeux fermés, à réfléchir à ce qui venait juste de se passer.
« J'implore ton pardon, Eddie, » dit-il.
« Comme elle tourne, la roue du cas.
Une fois, j'ai dû demander la même chose à mon ami Cuthbert, et pour la même raison. Je souffre d'aveuglement. » Un aveuglement dû à mon arrogance.
Je crois qu'il n'y a vraiment pas de quoi faire l'implorant, dit Eddie, mal à l'aise.
Et pourtant, je n'avais que mépris pour tes blagues, et elles viennent de nous sauver la vie.
J'implore ton pardon. J'ai oublié le visage de mon père.
T'as pas besoin d'être pardonné, t'as oublié le visage de personne, reprit Eddie.
« Tu peux rien contre ta nature, Roland. »
Cela fit cogiter le pistolero qui prit conscience de quelque chose de merveilleux et d'affreux à la fois. Cette idée ne l'avait jamais effleuré, pas une seule fois de toute sa vie. Qu'il fût captif du cas, il l'avait su depuis sa plus tendre enfance, mais de sa nature, de sa propre nature.
« Merci, Eddie. »
Je crois que, mais avant même que Roland ait pu exprimer sa pensée, Blaine le Mono termina sa course dans un fracas implacable. Tous quatre furent violemment projetés dans l'allée centrale du compartiment de la baronnie. Otté, dans les bras de Jake, aboyait comme un perdu. La paroi avant de la cabine s'incurva, et Roland alla y cogner l'épaule la première. En dépit du rembourrage, la paroi était recouverte de moquettes et, au toucher, matelassé en dessous d'un tissu élastique. Le choc fut suffisamment rude pour l'engourdir. Le lustre, affecté d'un coup de balancier, fut arraché du plafond, les criblant tous les quatre de ses pendeloques de verre. Jake roula sur le côté, se dégageant juste à temps de sa zone d'atterrissage. Le piano clavecin vola de son estrade, alla rebondir contre l'un des canapés, avant de se renverser dans un discordant. Le monorail pencha dangereusement sur la droite et le pistolero banda toutes ses forces pour faire un rempart de son corps à Jake et à Susanna si jamais Blaine allait jusqu'au tonneau complet. Mais il retomba sur son rail, le plancher encore un peu incliné, mais en repos. Le voyage était terminé. Le pistolero se remit debout. Son épaule était toujours engourdie, mais le bras correspondant assurait son office, ce qui était bon signe. À sa gauche, Jake, sur son séant, débarrassait ses genoux des perles de verre du lustre, l'air hébété. À sa droite, Susanna étanchait une petite entaille sous l'œil d'Eddie.
« Très bien !» dit Roland.
Qui est blessé ? Il y eut une explosion au-dessus de leur tête, un « bang » creux qui rappela à Roland les Big Bangers que Cuthbert et Alain allumaient parfois et balançaient pour s'amuser dans les égouts ou les latrines derrière la souillarde. Et même une fois, Cuthbert avait tiré des Big Bangers avec sa fronde. Mais il ne s'agissait plus d'une farce ou d'un enfantillage, mais d'un... Susanna poussa un cri très bref. De surprise, plus que de peur, jugea Roland, et un jour brumeux vint baigner le front du pistolero. Que c'était bon! L'air s'engouffrant par la sortie de secours pulvérisée était encore meilleur, d'une douceur extrême mêlant l'odeur de la pluie à celle de la terre mouillée. Il y eut un cliquetis d'osselet et une échelle munie de barreaux métalliques tordus tomba d'en haut par une fente.
« Il commence par vous balancer le lustre à la tête, puis il vous montre la porte, » dit Eddie. Il se releva tant bien que mal avant d'aider Susanna à faire de même. « Bon, je sais quand je deviens indésirable, imitons les abeilles et allons butiner ailleurs. »«
Ça me va, » dit Susanna, réavançant la main vers l'entaille sur le visage d'Eddie.
Ce dernier lui saisit les doigts et les lui baisa en lui disant d'arrêter de tâter comme ça la marchandise.
« Jake, » demanda le pistolero, « ça va ?»«
Oui, »
répondit Jake. « Et toi, Otté ?»«
Otté,
à mon avis, ça va pour lui aussi. » Il leva sa main blessée et la contempla avec une dose certaine de sinistrose.
« Elle t'aurait fait mal, hein ?» demanda le pistolero.
« Ouais, l'effet de ce que lui a fait Blaine disparaît, mais je m'en contrefous, je suis tellement content d'être encore en vie. »«
Hey, c'est bon, la vie. L'astine aussi. » Il m'en reste un peu.
Tu veux dire de l'aspirine ?
Brown Takessa, un cachet ou propriété magique du monde de Jake, mais dont le nom restait imprononçable pour lui.
9 médecins sur 10 conseillent l'anacine, mon chou, dit Susanna, qui ajouta, en voyant Jake tourner vers elle un regard interrogateur,
je parie qu'on en prescrivait déjà plus de ton camp, hein ? Pas d'importance. On est ici, maintenant, mon chichou, et puis là, eh bien là, il n'y a que ça qui compte.
Prenant Jake dans ses bras, elle lui planta un bisou entre les deux yeux, sur le nez, enfin à fleur de bouche. Jake éclata de rire et devint rouge comme une pivoine.
Il n'y a que ça qui compte, et pour l'instant, c'est l'unique chose au monde qui compte.
6. Les premiers soins, ça attendra. Dit Eddie. Il entoura les épaules de Jake de son bras et guida le garçon jusqu'à l'échelle.
« Tu peux t'aider de cette main-là pour grimper ?»«
Oui, mais je peux plus porter au thé. Roland, tu veux bien t'en charger ?»«
Oui, » fit le pistolero, prenant au thé qu'il fourra dans sa chemise, comme lors de sa descente dans le puits d'égout quand il cherchait à rejoindre Jake et Gasher sous la ville de Lude. Otté surveillait Jake de ses yeux brillants cerclés d'or.
« Allez, passe devant. »
Jake grimpa. Roland le suivit suffisamment de près pour qu'Otté, en étirant son long cou, puisse renifler les talons du gamin.
« Hé, Suzy !» demanda Eddie. « T'as pas besoin qu'on te pousse ?»«
Pour que tes vilaines mains se baladent sur mon joli cul, et puis con encore, petit blanc »
Là-dessus, elle lui décocha une œillade et se mit à grimper, se hissant facilement à la force de ses bras musclés, ses moignons de jambes faisant contrepoids. Elle allait vite, mais pas assez pour Eddie, à qui il suffit de tendre la main pour pincer légèrement sa partie charnue.
« Oh, mon innocence !» s'écria Susanna en riant et roulant des yeux blancs. Puis elle disparut.
Ne restait plus qu'Eddie au pied de l'échelle qui regarda autour de lui le compartiment luxueux qu'il avait bien cru devoir être le cercueil de leurs 4 têtes.
« T'as réussi, gamin, » dit Henry. « Il s'est foutu le feu au cul. Je savais que tu pouvais le faire, bordel. Tu te souviens quand je l'ai dit à ce tas de déchets derrière chez Dali, Jimmy Polio et les autres, et comment ils se sont marrés ? Et pourtant, t'y es arrivé. Tu l'as expédié en réparation, putain, et comment ?»
Ouais, ça a marché, quoi, songea Eddie qui toucha la crosse du revolver de Roland sans même s'en rendre compte.
C'est quand même bien qu'on s'en soit tiré encore une fois, nous tous. Il escalada 2 barreaux, puis regarda en bas derrière lui. Le compartiment de la baronnie donnait déjà une impression de mort de longue date, en fait. Rien de plus qu'un artefact d'un monde qui avait changé.
Adios! « Blaine, » dit Eddie.
Salut, partenaire. » Et il rejoignit ses amis à l'extérieur en empruntant l'issue de secours du toit.